France Culture.
Agriculture et forêt en péril à cause de la sécheresse et des feux, refroidissement des villes surchauffées, amélioration de l'isolation des logements, gestion des inondations récurrentes, reconversion de certaines activités. Pour préparer la France à un réchauffement de plus 4 degrés d'ici 2100, le gouvernement a lancé lundi 10 mars dernier le troisième plan national d'adaptation au changement climatique. Mais ce plan est-il à la hauteur? Est-il assez ambitieux, assez financé, bien gouverné? Nous prépare-t-il alors à vivre dans une France à plus 4 degrés. Pour en discuter, pour en débattre, également deux invités ce soir. Marine Brault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes associée fondatrice d'Alameda, une société de conseil aux entreprises en transition écologique. Vous êtes par ailleurs ex-conseillère écologie auprès de la Première Ministre et du Président de la République. Vous êtes par ailleurs l'autrice pour Terra Nova de cette note intitulée « Adapter la France à plus 4 degrés, lubie politique ou nécessité fondée sur la science ». Face à vous, Vivian Despouesses, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable de la thématique adaptation au changement climatique à l'Institut de l'économie pour le climat. Merci d'être ici tous les deux ce soir. On remercie aussi les élèves du lycée de Couseran de Saint-Girons qui sont avec nous justement toute la soirée. Merci à tous d'être présents ce soir dans Question du soir.
Les nombreuses données records que nous avons analysées au cours des 12 derniers mois ne sont pas des bizarreries statistiques, mais plutôt une conséquence directe du réchauffement généralisé de notre système climatique. Un réchauffement qui est principalement alimenté par l'augmentation constante de la concentration atmosphérique de gaz à effet de serre. Un climat mondial plus chaud produit des événements extrêmes plus fréquents et plus intenses, comme les canicules. Une atmosphère plus chaude retient également davantage l'humidité, ce qui entraîne des précipitations plus abondantes, tandis que des mers plus chaudes amplifient le potentiel destructeur des tempêtes.
La voix du directeur de Copernicus, un programme de l'Union européenne qui collecte et restitue des données de qualité actualisées de manière continue, portant sur l'état de la Terre. Alors justement, je voudrais qu'on se projette dans cette France en 2100. Qu'est-ce que c'est une France à plus 4 degrés? En lisant un rapport de Météo France, celui-ci expliquait que Paris aurait à peu près le climat de Montpellier aujourd'hui, que Montpellier aurait celui de l'Espagne du Sud. Comment est-ce que vous analysez vous-même cette situation, Vivian Despouesses? Projetez-nous dans cette situation dramatique, disons-le.
Une France à plus 4 degrés, c'est une France où les conditions climatiques moyennes sont différentes. On vient de les entendre, où les extrêmes sont différents aussi. Mais ce qui est important à comprendre et à avoir en tête, c'est que nos activités économiques, nos équipements, nos villes, vous citiez Montpellier, vous citiez Paris, n'ont pas été conçus pour ce climat-là. Donc, ce n'est pas juste il fera la température et ça sera bien d'aller voir un verre en terrasse à Montpellier comme à Séville. C'est juste que la ville n'a pas été pensée pour ça. Et c'est le cas de à peu près tous nos équipements. Je prends 2-3 chiffres juste pour illustrer. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé l'année dernière des bâtiments et des logements, des maisons individuelles qui étaient exposées au retrait gonflement des argiles qui provoquent des fissures dans les murs. Dans le climat actuel, ça représente un petit tiers des bâtiments. À plus 4 degrés, c'est quasiment 80%. On peut parler de nos routes, par exemple. Aujourd'hui, la chaleur sur les routes, qui pourrait endommager les routes, ça ne nous concerne pas vraiment en France. C'est des problèmes qu'on peut avoir dans d'autres pays. À plus 4 degrés, ça concerne les 3/4 du réseau routier, qui ont possiblement des problèmes là-dessus. On pourrait parler d'enneigement qui diminue pour les stations de montagne. On pourrait parler de... C'est 5 fois plus de sécheresse, plus 4 degrés. Donc voilà, c'est tout ça.
Marine Brault, vous-même, comment est-ce que vous dessinez cette France à plus 4 degrés? Je rappelle qu'on est aujourd'hui en 2100, selon les prévisions de Météo France, notamment, on y reviendra.
Tout à fait. Je pense que ce qui est important de rappeler, parce qu'il y a beaucoup de confusion autour de ce chiffre de France à plus 4 degrés, c'est qu'une France à plus 4 degrés, c'est pas un réchauffement global à plus 4 degrés. Les terres se réchauffent plus vite que les océans. Donc une France à plus 4 degrés, c'est en fait actuellement la trajectoire sur laquelle on est. Si les pays font tout ce qu'ils se sont engagés à faire, mais qu'ils n'en font pas plus. Et quand on regarde actuellement la situation, en particulier aux États-Unis, mais pas que là-bas, on peut déjà douter qu'on restera sous les 4 degrés qui sont actuellement prévus. Et ces plus 4 degrés, ce sont des conséquences qui sont massives. C'est-à-dire que potentiellement, ce sont plus d'un million de personnes en Europe qui vont subir des submersions marines. Les submersions marines, c'est des inondations qui viennent de la mer. C'est potentiellement 110 millions d'Européens qui vont subir en 2050 des canicules tous les ans les canicules qu'aujourd'hui, ils ne vivent qu'une fois tous les 50 ans. C'est-à-dire qu'on a des événements extrêmes dont la fréquence est aujourd'hui d'une fois tous les 50 ou tous les 100 ans qui vont se produire tous les ans.
On va donc revenir donc justement sur que faire face à cette situation que vous nous décrivez. Je voudrais qu'on parle de ce plan national d'adaptation au changement climatique, plan lancé ce lundi par le gouvernement. C'est le troisième de ce type, hein, Vivian Despoues. Peut-être rappelez-nous à quoi sert un tel plan? Pourquoi on organise l'action publique en matière de lutte contre le changement climatique de cette façon-là? C'est parce qu'il faut planifier, c'est parce qu'il faut coordonner. À quoi ça sert concrètement?
On peut regarder ce qui se passe sans plan. Parce que oui, il y a eu un premier, un deuxième plan, mais jusque-là, c'est des documents qui n'ont pas forcément été très connus, qui n'ont pas forcément eu un énorme impact. Comment on répond au fait que le changement climatique est en train d'arriver? On parlait de plus 4 degrés en 2100, il se passe déjà des choses aujourd'hui. Et comment on répond? En fait, on réagit en permanence, on est un cran de retard, on rattrape. Et donc très concrètement, ça veut dire que on a trop chaud dans des logements, on climatise. Que on a de plus en plus d'inondations, d'événements extrêmes, que ça affecte nos systèmes de transport. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des budgets maintenance de ces systèmes de transport qui augmentent. On sait qu'on est dans des conditions budgétaires compliquées, donc des niveaux de services qui diminuent. On a nos trains qui sont plus à l'heure, on a des problèmes sur les routes, etc. Donc il y a besoin d'anticiper. C'est ça que je veux dire, c'est que sans plan, on fait que réagir et on fait que courir après le changement climatique. Il y a besoin d'anticiper et pas que chacun anticipe de son côté, parce que si on fait ça, on partira dans tous les sens, ça sera pas du tout coordonné, ça sera probablement pas cohérent. Si un port s'adapte, mais que les routes qui permettent d'accéder à ce port s'adaptent pas, les marchandises seront coincées quand même. Donc il y a besoin de cette coordination, il y a besoin de cette anticipation, c'est pour ça qu'il y a besoin d'un plan national d'adaptation.
Marine Brou, est-ce que vous qualifiez la philosophie de ce plan de la même façon? Dans le fond, c'est pour prendre un peu d'avance, pour tenter de se préparer. On verra évidemment dans un second temps si cela fonctionne et si le plan est à la hauteur.
En fait, Vivian Despoues a bien illustré qu'il y avait énormément d'enjeux très différents qui sont portés par des acteurs différents qui, au sein typiquement de l'État, sont portés par des ministères différents. Donc l'intérêt du plan, en théorie, c'est de faire en sorte que chaque ministère, chaque acteur, sache quelle est la part que lui a à faire, quelle est l'action qu'il a à faire. Par contre, effectivement, le retour d'expérience qu'on a des précédents plans, c'est plutôt que c'est un plan qui est fait au niveau du ministère de l'écologie, qui a ce sujet-là dans son portefeuille, mais qu'en fait, les autres n'ont même pas connaissance, pour certains ministères, des actions qu'ils sont censés mener dans ce plan-là. Donc en fait, on fait un plan, mais à la fin, ça reste une stratégie de papier si on n'est pas capable de s'assurer qu'on le met en œuvre. La grande différence qu'on a dans ce plan-là, c'est que cette fois, on décide quelle est la trajectoire de réchauffement climatique qu'on décide de prendre comme base. Et en fait, ça, c'est un message qu'on envoie à tous les acteurs, toutes les entreprises, tous les citoyens, toutes les collectivités, de dire, c'est ça la base, c'est ne vous posez pas la question de, en fait, qu'est-ce qui va m'arriver? Nous, on vous donne la base scientifique de quel est le plus probable qui pourra vous arriver, et sur cette base-là, on s'adapte.
Et cette base scientifique, justement, c'est plus 2 degrés en 2030, plus 2,7 en 2050, et on en parlait, plus 4 degrés en 2100?
C'est ça, c'est la trajectoire qui, pour le moment, est celle sur laquelle on est. Encore une fois, je répète parce que je pense que c'est important, c'est la trajectoire sur laquelle on est si les États continuent leur action climatique. Donc c'est quand même une trajectoire qui serait presque optimiste dans l'état actuel des relations internationales. Mais donc c'est effectivement cette trajectoire-là, et c'est la première fois que la France se fixe une trajectoire de référence.
Vivian Despoues, on répète un terme, un mot depuis le début de cet échange, de cet entretien, celui d'adaptation. J'ai lu l'un de vos entretiens dans la revue Ouzbek Erika, vous expliquez que ce n'est pas peut-être le terme le plus approprié. Vous préférez, vous, celui de préparation? C'est quoi la différence avec l'adaptation, on réagit, avec la préparation, on tente justement de prévenir ce qui pourrait faire défaut?
Alors c'est le terme qu'on a, et je pense que le débat sémantique est peut-être pas forcément le plus central, mais oui.
Non, mais il traduit beaucoup de choses quand même.
Il traduit beaucoup de choses parce que le terme adaptation, il y a un certain nombre de personnes qui entendent justement, on s'adapte au fur et à mesure qu'on vit les choses et qu'on les expérimente. Et en fait, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Alors que là, tout l'enjeu, c'est de dire, on est dans une situation, on a quand même une chance folle, c'est qu'on a des données scientifiques extrêmement riches, extrêmement précises sur ce à quoi on peut s'attendre. Alors ces données, elles vont servir d'abord à une chose, c'est faire en sorte qu'on soit le moins possible sur un scénario de réchauffement dur, parce que ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus coûteux de s'adapter, et qu'à un moment, on n'est même pas sûr d'y arriver. Et puis ça veut dire que pour le niveau de réchauffement qu'on n'aura pas évité, on sait en partie. On a quand même beaucoup d'informations sur le type d'impact auquel on peut s'attendre et donc on peut se préparer. Et donc, c'est pour ça que moi, j'insiste sur ce terme de préparation et sur ce terme d'anticipation qui sont centrales. Et je voudrais rajouter une chose sur ce qu'a dit Marine Brault, qui est extrêmement importante, c'est que cette trajectoire de réchauffement de référence qu'il y a dans ce plan, c'est une vraie nouveauté parce que jusqu'à maintenant, comment on faisait dans tout un tas de décisions et de politiques publiques, c'est qu'à défaut de trajectoire prospective, on considérait que le climat était toujours stable et que l'hypothèse de référence, c'est ce qui s'est passé dans les dernières années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait de la prévention des inondations, on décide de où est-ce qu'on a le droit de construire et de pas construire. On crée des normes de construction qui considèrent que les conditions climatiques vont pas bouger. S'il y a bien une hypothèse dont on est sûr et certain qu'elle est absolument obsolète, c'est celle-ci. Donc commencer à regarder en prospectif, c'est quand même une sacrée nouveauté.
Avant d'entrer dans le débat entre vous sur l'efficacité ou non de ce plan qui a été lancé, je voudrais qu'on établisse un dernier prérequis avec vous, Marine Brault. Il faut répéter, redire que l'adaptation, ça ne suffit pas, ça ne suffira jamais, cela va toujours de pair avec la lutte contre le réchauffement climatique, avec la lutte contre l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre.
Tout à fait. En fait, c'est très simple. On a deux volets très forts dans la lutte contre le changement climatique. On a l'atténuation, faire en sorte que le moins grave arrive. Et ensuite, vraiment, sur ce qu'on ne pourra pas éviter, on essaye de s'y adapter. Mais je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que quand on parle d'adapter la France à plus 4 degrés, en fait, ça n'est pas possible. On ne vivra pas de la même façon à plus 4 degrés. Il faut vraiment le savoir. Dans la partie d'adaptation, et c'est là où je suis d'accord que le débat sémantique n'est pas forcément le plus important, mais qu'il reflète des choses, en fait, il faut aussi se dire qu'à plus 4 degrés, on devra abandonner des choses. On devra abandonner des infrastructures, on devra abandonner certaines activités, et qu'au plus on l'anticipe, au plus on le prévoit, et c'est justement l'objet du plan en théorie de se préparer à ça, et donc d'être en capacité de déterminer quelles sont les choses dont on ne pourra vraiment pas se passer et qu'il faut absolument protéger, quelles sont les choses qu'on va devoir abandonner.
Et d'ores et déjà, nous ne vivons plus de la même façon. Preuve en est en Ille-et-Vilaine, le 28 janvier dernier, grâce à nos confrères de France Info.
Dans le sous-sol de François Roguez, plus rien n'est à sec. Des vélos, une tondeuse à moitié immergée. Certains meubles sont même flottants.
J'ai bien fait de demander un peu plus de parking.
Demain, l'eau, elle est ici. Il reste 10 cm, là. Demain matin,
tous les services de la commune sont sur le pont. J'ai décidé, les écoles, bien sûr, sont fermées. Sur les évacuations, je pense qu'on a entre 35 et 50 maisons qui ont été évacuées.
Beaucoup en fait attendent le moment critique de ne plus avoir d'électricité. Ils essayent de rester au maximum avec notamment leurs animaux de compagnie. Et puis les gens commencent à paniquer davantage, donc on essaye d'anticiper cette phase.
Alors entrons justement dans le détail de ce PNAC, le troisième plan national d'adaptation au changement climatique. Est-ce que Vivian Despouès, selon vous, selon ce qui a été dessiné par le gouvernement, avec bien d'autres acteurs d'ailleurs pour ce plan, est-ce que ce plan vous semble être à la hauteur aujourd'hui ?
Moi, quand je le lis, ça fait 10 ans que je travaille sur l'adaptation. Quand je le lis, j'ai envie de dire enfin. Enfin, il y a certaines choses, notamment ce dont on parlait juste avant, le côté vision prospective et avoir une référence commune pour se projeter. Enfin, on a cet outil-là et enfin, la ministre l'a confirmé lundi, enfin cet outil devrait pas uniquement être un joli document informatif, mais devrait avoir des conséquences réglementaires sur les normes, sur les lois, sur les documents d'urbanisme des communes, etc. Donc, de ce point de vue-là, le plan, il fait quand même une sacrée différence, d'autant que, vous le disiez, il n'a pas été élaboré en chambre. Marine disait tout à l'heure, les précédents plans, c'était beaucoup que le ministère de l'Environnement. Là, il y a quand même eu pas mal d'acteurs qui ont contribué et qui se sont saisis de la question.
Les collectivités territoriales, les acteurs locaux, les associations, les entreprises également, tous ont mis la main à la pâte.
Alors certains, il y a encore un très gros travail d'appropriation territoriale aussi. Dans l'élaboration du plan, il y a eu des grandes entreprises, il y a eu les grands opérateurs de l'État, il y a eu différentes bout de l'administration des ministères. Donc de ce point de vue-là, je pense que quand même, on est mieux avec que sans ce plan.
Mais je vous coupe, pardonnez-moi, donnez-nous un exemple concret. Qu'est-ce qui vous rend relativement optimiste aujourd'hui quand vous dites enfin un plan a été établi ? Pourquoi ça vous rend encore une fois positif vis-à-vis des changements qui arrivent ?
Principalement parce que on peut se dire qu'à partir du moment où réfléchir, prendre en considération qu'une France à plus 4 degrés, ça doit être ça l'hypothèse qu'on considère quand on met à jour, par exemple, la réglementation thermique de bâtiments, ce qu'on espère arrivera. Quand des communes refont leur plan local d'urbanisme et décident voilà, comment on va aménager, où est-ce qu'on met nos équipements publics, qui a droit de construire où. On le fait en prenant en compte qu'on est dans un monde avec un changement climatique. Donc à minima, et je dis bien que c'est un niveau de base, mais c'est déjà ça, les décisions qu'on va prendre à partir de maintenant, elles ne vont pas continuer à accroître notre vulnérabilité et à s'enfermer dans un monde qui serait de moins en moins adapté.
Marine Brault, enfin, c'est le premier terme qui vous est venu à l'esprit lorsque vous avez ouvert la première page de ce plan.
Alors, enfin, oui, parce que déjà, ça fait un moment qu'on l'attend, qu'il aurait dû sortir sous plusieurs premiers ministres successifs ces derniers mois, donc... Il y a un vrai enfin parce qu'il est
c'est
enfin
pas un
là.
Enfin de soulagement, mais il est enfin là, disons.
Voilà, c'est il y a un enfin de bon bah au moins il est là. je suis tout à fait d'accord sur l'intérêt de cette trajectoire et je voudrais donner un exemple très précis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur les réserves en eau pour les agriculteurs, sur ces fameuses bassines. Et en fait, jusqu'à présent, est-ce qu'une bassine était ou non viable pour l'environnement ? C'est quelque chose qu'on regardait en fonction de la moyenne des précipitations et des cours d'eau des X dernières années. Sauf qu'en fait, bah, typiquement, on sait que en Occitanie, avec le réchauffement qu'on a, désormais avec la trajectoire d'adaptation au changement climatique, on sait qu'en Occitanie, il y aura 25% de précipitations en moins. Donc ça veut dire que si on prend en compte cette nouvelle donnée, bah, peut-être demain, on n'enfermera pas certains agriculteurs dans un modèle dans lequel, en fait, ils vont finir par ne plus être en capacité d'arroser parce que juste l'écosystème ne sera pas en capacité de leur fournir.
Bon, je suis désolé, il va falloir qu'on parle d'argent, hein, Vivien Despouès. Le PNAC, donc ce plan, doit être doté de 590 millions d'euros en 2025, auxquels s'ajoutent près d'un milliard d'euros mobilisés par les agences de l'eau entre 2025 et 2030. Tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas du tout suffisant. Et en premier chef, Jean-François Soussana, hein, dans le journal Le Monde ce matin, le président du Haut Conseil pour le Climat, reconnaît que ce n'est pas du tout suffisant.
Bah, clairement, je pense que le point de vigilance, d'inquiétude qu'on peut avoir en lisant ce plan, c'est celui des moyens qu'il y a en face pour faire toutes les actions qui sont identifiées, sachant que ce plan national, c'est vraiment le comment on se met en marche pour l'adaptation. Et donc, quelle est la prochaine étape, secteur par secteur, pour commencer à s'adapter? Il n'a pas encore, et c'est normal, tout ce qu'il faudra faire pour s'adapter d'ici 2050, 2100. Et même ces actions-là, on se demande en partie, on se demande souvent... Avec quels moyens on va le faire? Alors, les budgets que vous citiez sont des vrais budgets qui sont dédiés à l'adaptation. Il y a effectivement des moyens en plus, qui dans le contexte actuel, c'est pas tous les sujets qui ont des moyens en plus. Par contre, est-ce qu'ils sont à la hauteur du besoin? Clairement pas. Je prends un seul exemple.
Vous décriviez qu'il fallait refaire les routes, l'ensemble des infrastructures, que des villes seraient submergées dans quelques décennies. On se rend compte de l'ampleur de la tâche et de la petitesse des moyens budgétaires alloués?
Alors oui, mais même sans aller jusqu'à ces besoins-là, qui seront des besoins, c'est pas du jour au lendemain qu'il va falloir faire tout ça. Il y a des choses qui vont pouvoir être phasées, il y a des choses, de toute façon, on va les refaire, donc il y a de la maintenance, il y a du renouvellement. Comment on le fait en intégrant bien ce sujet, sera des choses progressives. Mais avant même d'aller sur ces budgets qui pourront être, à un moment assez colossal, qui pourront représenter des milliards d'euros, toutes les petites actions à mettre en œuvre dès maintenant, ne serait-ce que pour faire en sorte que, bah voilà, on a cette trajectoire de réchauffement de référence, on en tient bien compte. Un seul exemple, hein, on est en train de rénover énormément de bâtiments, en particulier le bâti public. Si on dit, bah, quitte à le rénover, rénovons-le pour que les bâtiments, ils consomment moins d'énergie l'hiver, mais en plus, ils soient adaptés l'été. Bah, faire ça, ça représente un petit surcoût, alors qui n'est pas totalement insignifiant, il est autour de 10% du coût. Bah, déjà, si on faisait ça, le flux d'investissement qui est aujourd'hui engagé, la rénovation des bâtiments en France, c'est de l'ordre de 15 milliards d'euros par an en ce moment. Bah, il faudrait ajouter le petit delta adaptation. Pour l'instant, on s'en donne pas les moyens. Deuxième exemple, cette trajectoire de réchauffement de référence, ça va poser énormément de questions. Je citais le cas des collectivités locales qui vont devoir mettre à jour leurs documents d'urbanisme, leurs plans de prévention des risques. Ça se fait pas du jour au lendemain et ça s'invente pas. Ça demande quand même une certaine expertise, des compétences. Il y a un outil pour ça dans le plan national d'adaptation, ça s'appelle la mission adaptation, ça mobilise les acteurs de l'État qui ont cette compétence, pas pour aller embêter les collectivités, vraiment pour aller les aider à faire ça. Par contre, c'est un moyen constant.
Marine Brault, sur cette question budgétaire, est-ce qu'on, là pour l'instant on parle d'argent public, essentiellement d'argent public, est-ce qu'on demande assez au secteur privé, je sais qu'une mission a été lancée sur le sujet, comment, de quelle façon le secteur privé peut-il contribuer à sa juste hauteur, à sa juste valeur même plus exactement, à l'adaptation au changement climatique?
Alors il faut bien séparer deux choses, il faut séparer les nouveaux investissements et les nouvelles infrastructures, et ça il faut clairement qu'elles soient adaptées aux futures conditions climatiques qu'elles vont avoir à affronter. Donc ça, c'est quelque chose qui sera possible grâce à la trajectoire où, effectivement, si on réussit à les mettre dans les normes, ça permettra déjà de faire en sorte que tout ce qui arrive sur le marché, d'une certaine façon, est adapté. Mais après, il y a tout l'existant. Et tout ça, en fait, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas combien ça va nous coûter. Parce qu'on sait pas, on n'a pas encore une vision suffisamment exhaustive de ce qu'il faut adapter, ce qu'il faut mettre à niveau et combien ça coûte. On n'a pas une vision non plus politique de savoir qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner et qu'est-ce qu'on veut absolument sauver. Je vous donne un exemple. On imagine, par exemple, que les diagnostics vont nous permettre de dire qu'une route va être inondée une fois tous les 5 ans. Si cette route, c'est une petite route de campagne secondaire que quasiment personne n'utilise, peut-être qu'en fait, on ne mettra pas l'argent pour l'adapter et qu'on se dira, une fois tous les 5 ans, elle n'est pas utilisable. Par contre, si cette route, elle mène à un hôpital qui est le seul hôpital de la région et que c'est quasiment la seule route qui mène à cet hôpital, là, c'est une route qu'il va falloir conserver et où on mettra potentiellement plusieurs millions d'euros pour pouvoir la protéger.
D'accord, mais est-ce qu'on a besoin de savoir de combien on aura besoin exactement pour demander plus? On sait de toute façon qu'on aura besoin de plus, voire de beaucoup, beaucoup plus.
Alors, on sait qu'on aura besoin de beaucoup, beaucoup plus. Ça, c'est évident. Est-ce qu'on peut aujourd'hui demander de mettre beaucoup, beaucoup plus alors qu'on ne sait pas encore totalement ce dont on a besoin? C'est une vraie question. Dans tous les cas, il faudra que le secteur privé et que le secteur public investissent tous beaucoup plus d'argent. On a un chiffre qu'avait donné d'ailleurs l'ancien Premier ministre Michel Barnier quand il avait présenté la première version du plan qui est sorti lundi. 1 euro investi dans l'adaptation, c'est 7 à 8 euros économisés en dégâts futurs. Donc de toute façon, que ce soit le public ou le privé, tous les acteurs ont intérêt à se lancer dans l'adaptation. Mais effectivement, il faut bien la doser, il faut savoir ce qu'il y a à faire.
Vivian Despoisses, vous souhaitiez réagir?
Oui, je voudrais insister sur quelque chose qui est vraiment très important dans ce que Marine Brault vient de dire, c'est que on ne sait pas combien, mais pas parce qu'on n'a pas les données, on n'a pas les méthodes pour savoir. C'est des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé à l'Institut de l'économie pour le climat, mais vraiment parce que pour l'instant, on n'a pas fait les choix politiques, on n'a pas considéré quelle route est particulièrement importante, quel modèle agricole on veut soutenir, quel modèle touristique. Et c'est ces choix-là, ces décisions-là qu'il faut avoir, en ayant bien en tête que ne pas les avoir, ça ne veut pas dire qu'on ne dépense pas, ça veut dire qu'on dépense de manière contrainte. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. On a par exemple énormément, et c'est en train de croître, de dépenses de crise. Parce que quand on est au pied du mur, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers les pouvoirs publics en disant, là on a une récolte qui est perdue, on a besoin d'être soutenu. Là, on a une infrastructure qui est détruite, il y a besoin de la reconstruire du jour au lendemain. Et donc, ce rapport de 1 à 8, il est là aussi. Et il faut bien comprendre que la grosse différence qu'il y a entre le 1 et le 8, c'est que ce n'est pas les mêmes qui payent dans un cas ou dans l'autre.
Autre sujet vertigineux, est-ce qu'on entre aujourd'hui dans un monde inassurable? Je voudrais vous citer une nouvelle fois le président du Haut Conseil pour le climat, Jean-François Soussana. Il s'exprimait dans Le Monde ce matin même et il disait « On touche d'ores et déjà les limites de l'assurabilité pour certaines collectivités, entreprises ou citoyens ». Fin de citation, c'est vertigineux. Comment est-ce qu'on gère cela, Marine Brault?
Alors, pour le coup, effectivement, aujourd'hui, il y a déjà des endroits en France où les assureurs ne veulent plus aller. C'est des choses qui sont déterminées, établies, où en fait, une commune qui a vécu plusieurs inondations de suite, potentiellement, les assureurs
les
ne veulent
plus y aller.
Les maisons
seront plus assurées.
Il y a notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, avec toutes les inondations qu'on a connues l'année dernière, il y a beaucoup de gens là-bas qui ont reçu un courrier de leur assureur leur disant le contrat arrive à échéance et ne sera pas renouvelé. Et ça, ce sont des gens qui ensuite errent vers d'autres assureurs et ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à se retrouver assurés. Donc c'est une réalité aujourd'hui. Dans le plan national d'adaptation au changement climatique, il est intégré une réforme du régime de catastrophe naturelle qui est un régime assez particulier en France qui permet justement à la solidarité nationale.
Donc c'est l'État qui deviendrait assureur.
C'est l'État qui vient compenser une partie, qui vient contre-assurer, mais c'est pris sur les primes d'assurance. Enfin, c'est un système un peu complexe. Mais même ce système-là, il a déjà atteint ses limites aujourd'hui. Et en fait, on ne sait pas si on va réussir à le faire tenir dans la durée.
Vivien Despoix, c'est tout le modèle financier, tout le modèle économique des assureurs aujourd'hui qui est remis en cause, où on peut trouver justement le moyen, j'allais dire, de créer des modèles alternatifs.
On a un modèle en France qui jusque-là fonctionnait quand même assez bien avec une obligation de s'assurer pour tout le monde et avec ce système de mutualisation et de réassurance avec la garantie de l'État en dernier ressort. On a effectivement le constat qui est fait depuis quelques temps que ce modèle touche ses limites si on n'anticipe pas plus, si on ne prévient pas plus. Et ce qui est le point positif dans tout ça, c'est que la Caisse centrale de réassurance l'a très bien étudié et très bien montré, c'est possible de faire tenir ce modèle à une grande condition, même à deux, mais la principale, c'est à condition qu'on prévienne beaucoup plus, qu'on réduise le risque en amont, donc qu'on fasse de l'adaptation pour réduire le risque, pour faire en sorte que ça reste assurable.
Et donc qu'on limite les effets du réchauffement climatique, tout bonnement.
Oui, mais aussi qu'on limite l'installation dans des zones inondables, les constructions qui sont vulnérables au retrait-gonflement des argiles, toutes ces choses-là. Et la deuxième condition, c'est qu'à un moment, s'assurer, ça va peut-être continuer à être possible, mais ça va aussi être plus cher. Parce que c'est des choses où on gagne beaucoup collectivement à avoir ce système d'assurance et de réassurance publique, mais à un moment, si le niveau de risque augmente, le modèle il tient que si on y met le prix.
Marine Brault.
Et d'ailleurs, sur ce sujet d'anticiper les risques et de les réduire, il y a certains assureurs qui ont aussi compris leur intérêt à investir dans certaines actions d'adaptation au changement climatique. Je pense notamment à la Maïf qui a développé un dividende écologique qui permet de renaturer des zones pour éviter les inondations et donc éviter potentiellement des dégâts en aval, qui travaille sur le retrait gonflement d'argile pour éviter d'avoir à payer de la restructuration d'une maison. Donc il y a des assureurs qui ont aussi compris qu'il fallait qu'ils investissent dans l'amont et pas uniquement dans la gestion des dégâts.
Mais donc plutôt des acteurs mutualistes, à vous entendre et à vous écouter.
En tout cas, celui-ci, c'est l'exemple que je connais. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui en ont, qui y ont réfléchi.
Une autre critique vive exprimée à l'encontre de ce troisième plan national d'adaptation au changement climatique, il est formulé par l'ONG Oxfam qui juge que ce plan, je cite, est inopérant car dépourvu de gouvernance adaptée, de moyens budgétaires pour sa mise en œuvre, on vient d'en parler. Mais sur la gouvernance justement, Vivien Despoix, qui dirige, qui coordonne, qui s'en charge? Est-ce que là aussi on est dans une relative inefficacité pour son application?
Le plan tel qu'il est construit là, en fait, il renvoie à chaque domaine d'intervention et à chaque politique publique la gouvernance des actions qui sont concernées. Donc, en fait, on a des situations assez différentes entre des pans de politique publique, des acteurs qui ont très bien compris le sujet et qui savent mettre en œuvre et qui vont être, je pense, assez effectifs et efficaces dans la mise en œuvre du plan. Il y a d'autres endroits, il y a un énorme travail à faire. Ça, c'est le premier point. Effectivement, il y a quand même une question de coordination qui va être importante. Puis le deuxième sujet, qui est tout le défi, qui était peut-être pas l'étape, peut-être qui aurait pu être fait mieux en amont, je sais pas, c'est quand même un plan qui, pour l'instant, a été beaucoup discuté au niveau national, entre acteurs nationaux. La mise en œuvre de toutes les actions d'adaptation, tous ceux dont on parle depuis tout à l'heure, c'est quand même très souvent local, territorial. Comment tout ça va être repris, approprié, gouverné aux échelles territoriales, c'est un gros sujet. Il y a des espaces qui existent. Par exemple, on parlait de l'eau tout à l'heure. Comment on répartit une ressource en eau de plus en plus rare sur les territoires? Il y a des endroits où ces gouvernances fonctionnent très bien, avec les commissions locales de l'eau, avec ce genre de choses. Il y a des endroits où elles n'existent pas encore, où elles ne fonctionnent pas bien. Là, on va avoir des problèmes.
J'ai lu, Marine Brault, dans beaucoup de communiqués d'associations, à travers la voix aussi du président du Haut Conseil pour le Climat, que dans le fond, ce plan, c'était un agglomérat de petites modifications à la marge, de petits ajustements, que c'était comme on dit ça souvent dans la haute fonction publique, c'était du paramétrique, mais qu'il n'y avait pas fondamentalement de grande façon de repenser structurellement les choses, qu'on ne repensait pas le modèle français en matière agricole, éducative, dans le rapport au travail. Que voilà. Est-ce qu'on est là aussi bien loin de ce qu'il faudrait faire au niveau des transformations de fond?
Alors, c'est pas forcément toujours choquant de faire un agrégat de mesures qui existent un peu, mais qui, en fait, comme elles ne se parlent pas, ne sont pas toujours très efficaces. Donc, c'est pas parce qu'il y a des choses qui existaient déjà que c'est forcément un nouveau plan, et même à l'inverse, on a souvent tendance à vouloir faire plein de grandes déclarations et de grands nouveaux plans et de ne pas utiliser ce qui marche. Donc cette partie-là, ce ne serait pas la partie que moi je critiquerais le plus.
La situation n'appelle pas de grandes réformes structurelles ?
C'est là où je voulais en venir. Effectivement, ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui existent déjà que c'est un problème. Par contre, moi, ce qui m'a vraiment choqué là, dans la sortie du plan national, c'est l'absence totale du Premier ministre, qui, je le rappelle, est quand même supposé être en charge de la planification écologique. Depuis 2022, les premiers ministres sont en charge de la planification écologique. Et ça veut dire quoi, un Premier ministre en charge de la planification écologique ? Ça veut dire qu'il est censé impulser, justement, ce changement transformationnel. C'est lui qui est censé porter les grands changements, en particulier les grands changements à long terme, puisque c'est de la planification, et je rappelle que le Premier ministre actuel était haut commissaire au plan, donc normalement la planification est quelque chose qui devrait lui parler.
Il y a réfléchi en amont.
Et en fait, c'est à lui justement d'embarquer sa ministre de l'Agriculture, son ministre de l'Économie, son ministre des Transports, du Logement, etc. Et tant que ce ne sera pas pris au plus haut niveau de l'État pour assurer cette coordination-là, c'est sûr que c'est pas Agnès Pannier-Runacher, même si elle est très ambitieuse, même si elle est très tenace, qui réussira à impulser une vraie modification de la structure de la gouvernance et donc les changements transformationnels dont vous parlez, qui sont effectivement nécessaires.
Vous êtes en ligne là-dessus, Vivian Despouès. Dans le fond, ce qui manque, ce n'est pas fondamentalement de grandes réformes structurelles dans le temps. Il y a déjà l'existant.
Non, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles le plan en l'état, il a renvoyé à plus tard des discussions qu'il faut vraiment avoir sur des modèles.
Sur quel sujet, par exemple?
Par exemple, dans ceux qui ont pu être cités cette semaine, la question de l'aménagement du littoral, ça concerne quand même des dizaines de milliers de personnes, ça concerne quand même énormément d'entreprises, ça concerne pan de l'activité touristique. On sait qu'il va y avoir des décisions à prendre de est-ce qu'on tient la ligne de côte telle qu'elle est là. Mais ça va devenir totalement intenable. Est-ce qu'on relocalise ? Est-ce qu'on change d'activité ? C'est des vraies discussions qu'il faut avoir sur
ce qui est frappant, ce qui est frappant, c'est que sur ce sujet, on sait très très bien comment la ligne de côte va bouger. On sait très bien les villes qui vont disparaître, où la mer va commencer à augmenter. Le diagnostic est établi et aucune discussion ne se noue sur le sujet pour savoir quoi faire.
Alors des discussions, il y en a. À ce stade, je dirais qu'on n'a pas d'arbitrage, on n'a pas de choix qui sont politiquement assumés et portés. Et là, je rejoins ce qui était dit. C'est qu'à un moment, ces choix ne peuvent pas être portés de manière thématique par un tel ou un tel. C'est des choix qui doivent être collectifs, où il faut aller ensemble dans une direction. Et donc forcément, ça demande un portage à assez haut niveau. L'autre exemple territorial qu'on pourrait citer, pour dire qu'on a les mêmes débats à un niveau plus local, c'est la question des économies de montagne. À un moment, c'est des territoires, il y a des endroits, on sait qu'il y a des activités qui ne seront pas pérennes pendant encore dans les prochaines décennies. Est-ce qu'on attend le tout dernier moment et on pleure à chaudes larmes en disant en fait on pouvait pas anticiper, on savait pas? Si, là on sait, on peut anticiper. Par contre, il s'agit pas de dire du jour au lendemain aux gens qui vivent sur ces territoires, qui travaillent sur ces territoires, pour vous c'est fini, au revoir. Il faut penser quelque chose ensemble, le porter, et là c'est du projet politique.
La voix d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, est un intitulé long à l'ampleur de la tâche. Elle s'exprime justement sur les rapports entre réchauffement climatique et travail.
Un, il faut regarder l'organisation du travail et le déplacement des horaires. Parce que vous savez comme moi qu'il fait le plus chaud, grosso modo, entre midi et 16 heures. Ça veut dire, deux, qu'il faut discuter du suivi par la médecine du travail et du repérage des personnes qui sont les plus sensibles à la chaleur. Parce que vous savez que certaines pathologies, je pense notamment cardiaques, supposent d'avoir un suivi rapproché. Ça veut dire, trois, qu'il faut équiper les travailleurs en équipements de protection en fonction de la nature des travaux qu'ils ont. Ça veut dire 4, qu'il faut accepter qu'à certains moments il faut s'arrêter. Et les plus avancés aujourd'hui sur ce sujet-là, ce sont les Grecs. Les Grecs, pour eux, 34 degrés l'été, c'est une habitude. Et ils ont un droit du travail et de la négociation collective qui est particulièrement avancé sur ces sujets et qui est clairement une source d'inspiration pour les Français.
Ce qui m'intéresse, Marine Brault, dans ses propos, c'est plus que l'ampleur de la tâche, c'est son étendue. On ne pense pas nécessairement et d'une façon intuitive au lien entre réchauffement climatique et conditions de travail. Est-ce que ce plan, là aussi, ce troisième plan, prend en compte justement la nécessité de refonder notre rapport au travail, aux conditions de travail ?
Pour le coup, effectivement, le plan va toucher très largement la plupart des thématiques qu'il faut regarder par rapport à l'adaptation au changement climatique. Et ça, pour le coup, en plus, c'est une unicité un peu du plan français, parce qu'il y a peu de plans nationaux d'adaptation au changement climatique à travers le monde qui ont une vision aussi large de tous les secteurs. Parce que là, on se parle du travail, et donc c'est assez facile d'imaginer pourquoi ça peut impacter le travail d'avoir des canicules, des personnes qui sur les infrastructures, les bâtiments, ne peuvent pas travailler.
C'est facile à imaginer, mais quand il faudra le négocier, on n'a plus de mal à voir.
Je pense qu'on sera sur autre chose, voilà. Tout à fait. Mais je vais vous donner un autre exemple auquel on ne pense pas forcément. Il y a quelques années, on avait dû reporter le brevet des collèges parce qu'à cause de la canicule, les collégiens ne pouvaient pas. On avait pensé que les conditions n'étaient pas là.
C'est les lycéens qui sont dans le studio, donc ça ne les concerne pas directement, mais ils vous écoutent attentivement.
Mais ça concerne aussi le bac et ça peut concerner les facultés. Mais en fait, on va probablement aussi devoir repenser notre calendrier de l'éducation nationale pour s'adapter à ces conditions-là. Donc c'est vraiment toutes les sphères de la société. Et c'est pour ça que ce que disait Vivian est très important. C'est quelque chose qui doit se passer dans une démocratie locale. C'est-à-dire qu'on doit à peu près se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on sauve à la fois comme infrastructure, à la fois comme activité, et qu'est-ce qu'on est prêt à modifier, à abandonner, à changer.
Est-ce que l'autre grand problème, Vivian Despouès, dans le fond, c'est aussi le contexte international qui absorbe toute l'actualité, toutes les préoccupations, la lutte contre la crise climatique risque de devenir la priorité de rang 2, si tant est qu'elle a déjà été une priorité fondamentale. Est-ce que là aussi, j'allais dire, on perd du temps à cause de tout cela ?
Probablement qu'on perd du temps à parler d'autres choses, même si ces sujets sont quand même très liés et très importants. Je pense qu'il y a quand même des liens directs entre le contexte international et le sujet climatique qui nous occupe quand on voit la dépendance aux énergies fossiles qu'on a encore. Pour le dire de manière positive, l'avantage du sujet adaptation au changement climatique, c'est que c'est un sujet sur lequel on peut avoir des prises directes chez nous, maintenant, parce qu'on peut y travailler quand il s'agit d'entretenir notre forêt, quand il s'agit de végétaliser nos villes, quand il s'agit de gérer la ressource en eau. Ça, c'est quelque chose où peu importe ce que font les Russes ou les Américains, on a prise dessus, et je pense que c'est déjà, essayons de bien faire ça.
Merci à tous les deux de cette discussion sur ce troisième plan visant à nous adapter au changement climatique. Marine Brault, je rappelle que vous êtes associée fondatrice d'Alameda, une société de conseil aux entreprises en transition écologique. Vous êtes ex-conseillère écologie auprès de la Première Ministre et du Président de la République, et l'autrice pour Terra Nova de cette note intitulée « Adapter la France à plus 4 degrés, lubie politique ou nécessité fondée sur la science ». Vivian Despouès, vous êtes responsable de la thématique adaptation au changement climatique à l'Institut de l'économie pour le climat. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.